Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
RMC, les grandes gueules.
Nous sommes avec Olivier Hubeda, qui est directeur national des événements d'Éric Zemmour et consultant en stratégie politique. Bonjour Monsieur Hubeda.
Bonjour à tous. Le débat hier sur France 2 entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire a un peu viré à la foire d'empoigne. D'ailleurs, moi j'ai trouvé plus que le débat, paradoxalement, face à Mélenchon, alors qu'ils sont peut-être plus éloignés idéologiquement avec Mélenchon qu'avec Bruno Le Maire. C'est votre ressenti également?
Non, alors... Déjà, Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidence, Éric Zemmour aussi, Bruno Le Maire n'est pas candidat à l'élection présidentielle, donc il y avait déjà un différentiel de statut. C'est vrai qu'Éric Zemmour est candidat depuis le 30 novembre, midi, avant il ne l'était pas. Il a un peu changé de dimension par rapport à ça, déjà. Le débat était pour moi plutôt honnête, ça s'est bien passé, il était pugnace, d'ailleurs chacun était pugnace à sa façon. Donc... voilà, les gens ont regardé, près de 3 millions d'audience. L'idée était quand même... Enfin, Éric Zemmour a toujours voulu débattre avec qui voulait, au fond. Il n'a pas sélectionné, il est prêt à débattre, il est même prêt à débattre avec Marine Le Pen. Je pense que ça va se faire maintenant, oui.
Quand
c'est le sujet, il faut que les choses s'organisent.
Vous avez RMC, RMC Story, BFM TV, à votre disposition.
Que les médias fassent...
On connaît du monde dans le groupe, si vous voulez.
On connaît du monde, j'entends bien.
Mais ça serait quand? Ça serait en février?
À mon sens, le plus tôt sera le mieux.
Ah, pourquoi?
Pas parce que c'est bien que les gens se... Et puis, même débattre avec Valérie Pécresse, ou même Emmanuel Macron, quand il sera candidat, un jour, j'imagine. Donc, il n'a pas de problème avec ça.
Pourquoi l'intérêt de débattre avec Marine Le Pen?
Mais pourquoi pas? Parce qu'elle est candidate à l'élection présidentielle, on est sur un premier tour, il n'y a pas de raison de ne pas faire de débat avec les uns et les autres. Ça fait partie de l'éclairage démocratique d'une campagne entre candidats qui veulent la même chose, au fond.
D'ici là, y aura-t-il d'autres meetings d'Éric Zemmour, malgré le Covid?
Écoutez, on a fait Villepinte avec les règles qui nous étaient imposées, c'est-à-dire le masque obligatoire la recommandation du pass sanitaire. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel ne souhaite pas qu'on puisse exiger le pass sanitaire. Nous le recommandons à chaque fois. Maintenant, on ne peut pas l'exiger. C'est une réunion publique et dans le cadre de notre débat démocratique, on ne peut pas empêcher, comme des réunions cultuelles d'ailleurs, d'obliger le pass sanitaire. Maintenant, tant qu'on peut organiser des meetings, nous organiserons des meetings.
Vous en avez prévu déjà?
Je suis en train de travailler sur l'ensemble des opérations qu'on va faire en région, un peu partout. Hein, on va aller partout, de toute façon, des petites villes, des grandes villes. Donc, on va pas faire Villepinte toutes les 5 minutes parce que ça coûte un peu de sous quand même. Donc, on a un budget.
Coûte, Villepinte,
hein. Villepinte, le Zénith, on était sur 220 000. On a quand même fait Villepinte en 3 jours parce qu'on était à 6000 places sur le Zénith. On avait trop de monde, on voulait doubler la capacité. On a donc fait Villepinte, on a donc eu nos 13000 personnes à Villepinte. Ça va coûter 500, 550 000.
Ah oui, quand même.
Voilà, c'est... Mais plus, dans l'étiage des meetings, c'est normal. On est sur un étiage correct. Maintenant, on ne peut
vous
pas faire des meetings comme ça.
Le Zénith.
Ah oui, le Zénith, on avait avancé, je crois, 89 000 euros. Je pense qu'on va récupérer une partie, mais pas tout, parce que forcément, la date, on l'a repoussée. Donc,
et d'où vient cet argent?
Du financement qu'on a des amis d'Éric Zemmour. Hein, je vous rappelle que...
28 000 adhérents?
Alors ça c'est autre chose. Parce qu'en fait, il y a le compte de campagne, hein, donc il y a des gens qui participent aux dons, et on en a de plus en plus. Et depuis Villepinte, d'ailleurs, ça afflue. J'étais au siège ce matin, le courrier arrive comme ça, et tant mieux. Puis, il y a maintenant les adhésions au parti Reconquête, qui a été lancé à Villepinte, à 17h, la campagne d'adhésion a commencé. Le chiffre qu'on a, que j'ai de hier soir à 20h, on a passé les 40 000 adhérents. À 30 euros, vous faites le calcul, voilà, ça permet de payer les affiches, les factures, les meetings, qui est quand même un gros poste de dépense. Il faut savoir, dans une campagne présidentielle, les meetings, c'est à peu près un tiers du budget global de campagne.
Mais vous ne pouvez pas exiger le pass sanitaire à l'entrée d'un meeting. Oui. Est-ce que vous pouvez quand même trier un peu les gens qui viennent dans votre meeting?
Alors, justement,
éviter d'avoir notamment ceux qui tabassent les activistes des SOS Racisme.
Déjà, les activistes des SOS Racisme, quand ils viennent faire la provoque, hein, donc c'est fait exprès, avec des antifas infiltrés, qui lancent d'ailleurs la première chaise, donc les violences, viennent pas de chez nous. Hein.
Qui a lancé la première chaise?
Bah, les Antifa, clairement. Et à partir, ça
dans,
part.
Dans c'est la bagarre
les, dans la bagarre, enfin, ça lance la première chasse et ça part. Et vous avez,
c'est
en plus d'autre côté, des ultras.
C'est ce que disent les enquêteurs de.
C'est les sources, c'est vos sources.
Non, moi, c'est pas mes sources, c'est les images. J'ai tout filmé. Donc, moi, je vois les choses. Je sais qui a commencé. Je la vois, la première chasse partir sur les images. Donc, voilà, c'est clairement eux. Donc, ils viennent faire.
Rien ne justifie de rouer de coups de poing au visage.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais rien ne justifie aussi de venir provoquer. Et vous avez des provocateurs radicaux des deux côtés qui viennent faire le coup de poing et foutent le bordel. Donc moi, je n'en veux plus, ni les uns, ni les autres, parce que...
Quand vous allez faire ?
Ben, justement, on repère, on regarde, on trie, on fait attention, et il faut quand même savoir que c'est une réunion publique, c'est-à-dire c'est ouvert à tous les citoyens qui veulent venir. Moi, j'ai aucun problème à ce que... un Antifa s'installe dans le public et écoute. Mais si l'Antifa, il vient pour taper, ce qu'il vient faire d'ailleurs, hein, eh bien, vous avez de l'autre côté une radicalité, disons-le.
Les Zouaves, notamment.
Qui viennent aussi pour taper. Moi, je veux plus de ça. C'est pas compliqué. Nous n'avons pas envie de que les meetings servent, s'ils veulent se taper dessus, qu'ils aillent ailleurs.
Parce que lorsqu'on a exfiltré les gens de SOS Racisme...
Ça a duré 10 minutes, hein. Tout le monde
est sûr, bien sûr.
Les ultras, mais, les deux côtés.
Ah, vous êtes sûr? Parce qu'après, on les voit revenir vers le meeting. Et puis on leur dit, merci les gars d'être là, merci d'avoir fait le boulot.
C'est un mec de la sécurité.
Il travaille encore avec vous, celui-là? Celui qui a dit ça?
Justement, je n'ai pas encore son nom, mais je vais l'avoir, là, bientôt.
Mais c'est ça qui est...
Oui, je sais, je sais.
Allez-y, monsieur Bédard.
Donc, on règle ça. Mais enfin, très franchement, c'est un épisode malheureux et qui ne se reproduira plus. Ceux qui viennent faire le coup de poing dans les meetings seront dégagés, en tout cas traités avant, bien en amont. Voilà.
Et puis il y a aussi l'empoignade. Éric Zemmour a été attrapé par quelqu'un.
Oui, alors effectivement, il se trouve que c'était un encarté des LR qui avait pris sa carte au mois de novembre. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça. voilà, mais ça pose des sujets. Il faut savoir que, franchement, le meeting était une grande réussite. Le discours cadre socle d'Éric Zemmour était fort. On a fait une opération de style aussi. C'est un protocole scénographique qu'on retrouvera dans toutes les opérations d'Éric Zemmour en région, en France, ici et là. Donc, on a aussi testé des choses. C'était son premier meeting de campagne de sa vie. Quand même,
il avait un peu répété avant, quand même.
Mais on a travaillé, mais il a beaucoup travaillé.
Il a beaucoup tourné pour la sortie de.
Deux mois quand même de tournée, il a fait 17 dates. Enfin, qui d'autre a fait ça? Moi, je veux bien qu'on critique ma chance. J'attends.
Pas là-dessus.
Hein. J'attends que des autres candidats fassent la même chose. Et là, on va pouvoir comparer. Et donc, le discours était fort, important. Il fallait qu'il socle. D'ailleurs, vous avez noté, si vous l'avez bien entendu, qu'il a tendu des mains. Il reste quelqu'un qui est clivant. Il considère qu'il est une droite claire. Pas la vraie droite, je ne sais pas ce que c'est que la vraie droite. La droite, elle est partout. Valérie Pécresse qui revendique la droite, oui, les électeurs de droite, ils sont partout. Ils ne sont pas à LR, ils sont partout aujourd'hui. Et beaucoup sont déboussolés et attendent un patron, un chef, quelqu'un qui emmène. Donc, il dit, les politiques aujourd'hui sont des gestionnaires. Lui, il a voulu emmener un peu plus haut. Ça déclenche de la ferveur. La ferveur, donc, déclenche des conséquences sécuritaires. C'est l'homme le plus menacé de France aujourd'hui, clairement. Donc ça pose des sujets aussi d'organisation des choses.
Même dans les déplacements, on a vu son déplacement à Marseille très compliqué.
Mais évidemment, quand vous avez la presse locale qui donne l'embargo du programme, qui le donne par texto aux leaders des Antifa, évidemment vous avez 50 journalistes d'un côté, 200 Antifa de l'autre, c'est sûr que la rencontre avec le peuple marseillais est peu compliquée. Surtout quand vous avez les Antifa qui vont casser après les boutiques qui ouvrent la porte.
Et à chaque fois qu'ils vont vouloir se déplacer, ça va être comme ça, non?
Non, parce qu'il y a plein de modes opératoires, si vous voulez. Plein de modes opératoires.
J'ai deux, trois questions. La première chose, très rapidement, Éric Zemmour, est-ce que c'est un client pour vous ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui, vous adhérez totalement?
C'est d'abord mon client. Parce
c'est que votre client.
Je suis un consultant en stratégie politique. Il m'a signé pour le temps de la campagne pour organiser ses opérations parce que ça, c'est mon métier. Donc j'ai fait ça avec d'autres avant, avec Bruno Le Maire d'ailleurs. Hier soir, j'étais un peu schizophrène.
Vous partagez pas forcément ses convictions?
Je partage pas tout, mais moi, je suis un vrai libéral, si vous voulez. Ouais. Donc vraiment, enfin, depuis toujours. Moi, j'ai commencé avec François Léotard, Longuet, Madelin. Moi, je reste un vrai libéral en tant que citoyen. Je suis même anarcho-libéral, c'est dire si ça va loin. Donc, voilà. En revanche, je partage avec lui, depuis longtemps, hein, je n'ai pas eu besoin de signer pour partager, le sujet civilisationnel. Je pense qu'il y a un vrai sujet civilisationnel. Il le porte. Alors, c'est vrai qu'il est clivant. Maintenant, il ne m'a pas pris pour mes idées politiques, il m'a pris pour votre expérience, ma technicité, mon expertise. Je faisais les meetings de Bruno Le Maire. J'ai co-organisé les meetings de Nicolas Sarkozy. J'étais le dire comme adjoint de l'UMP. Je viens de cette famille politique-là. Je connais bien la droite et le centre-droit. J'ai d'autres clients qui ne sont pas à droite aussi.
Vous avez d'autres clients pour la présidentielle ?
Alors là, non, parce que je suis rentré dans une forme d'exclusivité parce que c'est juste pas possible de faire autre chose. Le temps. L'agenda est juste dingue, ça prend, et ça a pris très vite d'ailleurs. Moi, j'avais signé pour faire une tournée littéraire, on est quand même un peu passé à autre chose.
Deuxième question.
C'est votre client, rapidement, comment, alors que Zemmour, c'est pas ma tasse de thé, mais je dois reconnaître qu'il a eu une ascension fulgurante, il a une véritable opportunité.
Plus vite qu'on le pensait.
Comment est-ce que les gens qui sont autour de lui n'ont pas compris, en étant des professionnels, qu'à un moment, s'ils voulaient concrétiser cet acquis, il fallait qu'il rarifie sa parole.
Non, parce qu'il avait besoin.
Il se passe un peu absent pour sacraliser sa parole.
Olivier Hubeda.
Alors qu'il a fait totalement l'inverse, il a banalisé en étant de partout.
Alors, et puis allez, ensuite, on fait la pause.
On a trop entendu, en fait.
Oui.
C'est ça.
Oui. Oui et non. Faut voir, parce qu'on n'entendait pas les autres non plus. C'est-à-dire qu'en creux, en face, il y avait qui ? Il y avait quoi ? Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose. En fait. Donc, de fait,
à ce moment-là,
il disait des choses, mais on n'est pas encore dans la dimension d'homme d'État.
Oui, mais l'homme d'État,
la
parole est rare.
Il est en train, mais il est un homme en campagne. Donc, plus il peut faire passer le message, mieux c'est.
Le mois de novembre a été compliqué.
Non, un mois de novembre où on part à 5 et on termine à 19, c'est pas un mois compliqué.
Les sondages sont un peu...
On était en crise de croissance au fond. C'est allé très vite. Écoutez, moi j'étais parti pour faire des dates à 300-400 personnes, je me retrouve à faire des dates à 1500 et 2000 personnes avec une espèce de ferveur de meeting.
C'est
alors qu'on était
sur... Bon. C'est un candidat client.
On continue d'en parler, Mourad, dans un instant avec Thomas Porcher, Barbara Lefebvre, Olivier Hubeda, directeur national des événements, d'Éric Zemmour, tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules avec Thomas Porcher, avec Mourad Boudjelal, avec Barbara Lefebvre. On termine cette semaine avec notre témoin de la semaine qui est aujourd'hui Olivier Hubeda. C'est l'organisateur du meeting de Villepinte. C'est lui qui est en charge de l'organisation de la campagne d'Éric Zemmour. Barbara Lefebvre, question, on y va.
Oui, alors comme vous êtes consultant en stratégie, là il vient de tomber une dernière enquête d'opinion sur les traits d'image. Alors, on voit quand même que ça ne s'arrange pas énormément parce que Éric Zemmour inquiète 46% alors qu'on est sur 18% pour Emmanuel Macron et 15% pour Marine Le Pen. Et sur la capacité à rassembler les Français, Éric Zemmour est à 9 quand Emmanuel Macron et Valérie Pécresse sont à 20 et Marine Le Pen à 15. Donc on voit quand même que ça n'imprime pas, en particulier sur ces deux dimensions qui sont des dimensions très importantes du chef de l'État, c'est-à-dire rassembler les Français et si possible ne pas trop cliver, ne pas trop leur faire peur. Alors comment est-ce que vous, qui êtes justement quelqu'un d'extérieur, vous ne connaissiez pas Éric Zemmour il y a encore quelques mois, comment est-ce que vous espérez changer son image ?
Déjà, l'image, c'est il est un personnage depuis longtemps. Première chose, c'est pas un homme politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le lissage. Il est clivant, il l'assume d'ailleurs. Hein. Et en même temps, son discours est très clair. Donc il est honnête avec lui-même dans sa constance. Première chose. Donc il est constant et on lui reconnaît d'ailleurs la constance, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Son discours est constant depuis 15 ans. Il se trouve qu'il trouve écho aujourd'hui dans le pays, clairement. Il trouve écho, ce discours, dans le pays. Sinon, il ne serait pas à cet étiage de 15, 16, 17 %.
Là, il est plutôt à 13 maintenant.
Non, il est à 15 sur l'ensemble. Regardez les études qui vont arriver.
En moyenne, c'est ça.
C'est quand même, aujourd'hui, quelqu'un de solide dans la campagne électorale. Première chose. Deuxième chose, oui, il est clivant sur sa personnalité parce qu'il a des mots qui sont clivants, qu'il assume. Mais en même temps, il les adoucit, il les explique, il les démontre. En tout cas, il essaye de les démontrer. Donc, il ne va pas changer son discours là-dessus, contrairement à ce que font beaucoup d'hommes politiques, qui essaye de trouver le compromis. Il n'est pas dans pas ce compromis permanent.
Mais c'est pas ça, son c'est plafond de verre, parce ouais, que ça, il ouais. peut être mais le poil à gratter la présidentielle et rester à 15, mais 15...
Non, on n'est pas un poil à gratter à 15. À 15%, on est autre chose. On est une offre politique crédible. Ça n'a plus rien à voir, électoralement. Et puis l'idée, c'est pas de plaire aux journalistes et aux commentateurs, c'est d'infuser un discours dans... ou le cœur ou le cerveau des Français, c'est-à-dire les électeurs. Il y a 47 millions d'électeurs. C'est pas les titres de presse de novembre qui font le président en avril. De toute façon, ça a jamais été le cas. Donc, il va continuer à travailler. Il y a 4 mois de campagne. Hein. On commence, en fait.
Oui, mais alors, attends, je rejoins ce que dit Olivier. C'est-à-dire que là, il a un peu dit toutes ses cartouches, on les connaît.
Non.
Moi, j'ai l'impression que j'ai eu... Enfin, hier, je l'ai vu en débat avec Bruno Le Maire. Et là, on voyait que c'était des fiches qu'on avait dû lui faire de enfin, des narcs où il révisait, mais qu'il avait pas encore son, autant sur ce qu'il dit là. Que ce soit vrai ou pas vrai, l'immigration, etc., le grand remplacement. Là, il déroule depuis à peu près une dizaine d'années, vous l'avez dit dans ses livres, etc.
Sur le sujet économique.
Mais sur le sujet économique, alors qu'il y a plein de choses à dire à Bruno Le Maire, mais plein de choses.
Bon, ça a duré quand même, l'échange a duré près de
deux ans. Oui, mais alors c'était des.
Ça a posé quand même. Vraiment, enfin, vous qui êtes économiste.
Oui, mais
ça a posé.
Sur l'éco, faut qu'il bosse. Moi, j'ai ce sentiment-là. On n'allait pas sur. Là, on allait vraiment sur un débat où il fallait ridiculiser. Alors l'autre, après, Bruno Le Maire a dit, vous avez fait un doigt. Lui, ben voyons, machin, on repart. Voilà. On n'était pas sur les sujets de fond. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de points communs, en fait, entre Bruno Le Maire sur l'économie et Éric Zemmour. Mais même, on le sent pas hyper à l'aise. Alors. Donc là, je pense que là, le plafond de verre, c'est ça. C'est qu'il a utilisé toutes ses cartouches et qu'après, là, il va falloir, à un moment, parler du programme aussi économique, c'est macroéconomique.
Macron a sorti son programme en mars.
Mais il avait été ministre de l'économie. Mais moi, je suis d'accord avec vous, il a sorti en mars.
Il a sorti en mars. Donc, le programme, vous voulez le programme, le résultat des élections, 8 jours après la candidature. Enfin, c'est un cheminement, une campagne.
Ouais.
Je dis toujours qu'une campagne, j'en ai fait un paquet, des campagnes électorales, des petites, des grandes, c'est toujours un marathon qui se termine par un 110 mètres haies. Et le 110 mètres haies est violent. C'est-à-dire que la cristallisation des voix, c'est 35 à 40% des électeurs aujourd'hui choisissent leur bulletin de vote 10 jours avant le scrutin, 5% le week-end du scrutin. Je peux vous dire que c'est pas maintenant que ça se cristallise. On a encore du temps pour installer quelque chose.
Est-ce qu'il s'améliore parce que c'est pas un politique, Zemmour?
Mais non.
C'est un journaliste, un écrivain qui.
Aujourd'hui, c'est un homme politique.
Maintenant, c'est un
homme politique. À partir du moment où on dit votez pour moi, ça devient un homme politique.
Ça devient un homme politique. Donc il l'apprend en faisant, en quelque sorte. Vous trouvez qu'il s'est amélioré?
Bah oui. Regardez le tout début, il y a trois mois, quand il a commencé cette tournée, etc. Enfin, bien sûr, il se densifie. D'ailleurs, il travaille beaucoup. C'est un travailleur. Alors, d'autres candidats travaillent beaucoup. Valérie Pécresse, que je connais bien et que j'aime beaucoup, est une bosseuse. Elle connaît ses sujets. Macron travaille beaucoup. Mélenchon bosse. Je veux dire, à ce niveau-là, vaut mieux bosser.
Vous n'avez pas dit Marine Le Pen.
Ah, mais je pense qu'elle travaille beaucoup maintenant.
Oui. Plus pas les débats toujours, mais non.
Non, mais c'est des sujets quand même.
Quels sont les défauts qu'il doit encore corriger? Je parle aux professionnels.
C'est pas une question de défaut, c'est une question de prendre au fur et à mesure le nécessaire pour arriver à délivrer au bon moment le message final. C'est-à-dire qu'il a fait son apprentissage politique en 3 mois. D'autres, ça fait 15 ans qu'ils attendent, 20 ans. Nicolas Sarkozy, avant de devenir président de la République, il a mis 30 ans à se mettre. C'est un apprentissage, l'accession au pouvoir, en tout cas aux responsabilités électorales.
C'est intéressant parce qu'il dit qu'Emmanuel, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'il dit qu'Emmanuel Macron a fait son stage pendant 5 ans. Donc lui aussi va faire un stage pendant 5 ans?
Non, parce que je pense qu'il est beaucoup plus clair sur ce qu'il veut faire. Ah. Il ne veut pas faire 50 000 trucs, il veut faire 2-3 trucs essentiels. Pour lui, ça passe par là. Il ne sera pas un gestionnaire. C'est pas un énarque déjà. Donc c'est pas un gestionnaire. C'est-à-dire que chacun son boulot. La présidence, c'est pas géré. Et donc il a un très gaulliste d'ailleurs, hein, un point de vue très gaulliste sur
le
temps de présidence.
A fait que ça n'existe plus. Ça. Donc il veut réinstaurer une présidentialisation qui n'existe plus du fait même des transformations institutionnelles. Donc déjà, il faudrait qu'il se remette à la page de cette question, que le quinquennat tel qu'il est fait aujourd'hui avec l'alignement du calendrier législatif fait que de toute façon il n'aura pas le choix que d'être un chef de gouvernement, un premier ministre bis.
Non, il n'est pas du tout dans cet esprit. Vous savez, on fait ce qu'on veut quand on est président, dans sa façon de faire président, en fait.
Non, donc, pas ce qu'on veut, non.
Voilà, la présidence, on change pas la présidence, mais le bonhomme n'est pas le même. Hollande n'était pas le même président que Sarko, qui n'était pas le même président que Giscard, qui n'était pas le même président de Mitterrand. Il y a une façon d'aborder la présidence et de faire tourner.
Est-ce que la comparaison avec une candidature à la Trump, ça vous va ou pas?
Trump n'était pas choisi par le parti, le système, les médias, etc. Trump, à Washington, fait 2% à Washington DC. Vous voyez, donc on est vraiment loin. Trump, personne ne le voyait venir. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Je dis pas que j'aime Trump. Je dis que j'adore les outsiders, les challengers. Trump, on l'a toujours regardé de loin et de haut. On l'a pris pour... Sauf qu'il est devenu président. Moi, je dis que celui qui devient président, c'est celui qui a la meilleure campagne. Trump a fait la meilleure campagne. Le sujet, c'est... pas 6 mois avant, mais au moment où on marche, si on agglomère, on rassemble au fur et à mesure qu'on chemine vers la présidence. Donc, il y a Macron, personne ne l'attendait. Personne n'attendait à ce que Macron soit président de la République à 39 ans, sans parti, sans parlementaire.
Personne
n'y
croyait au début d'ailleurs.
Voilà.
C'est assez amusant.
Avec des réseaux.
Merci Olivier Hubéda d'être passé par les GG.